cœur à cœur avec toi, CKUT 90,3 FM. CKUT, heart to heart with you.
Nous sommes au lendemain de la veille sur CKUT 90.3 FM. Bon lundi matin à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en cette saison estivale et que vous profitez amplement de l'été malgré les intempéries qu'on a parfois. Et je suis en studio avec nul autre que mon ami César. Comment vas-tu ce matin?
Muchas gracias, señor. ¿Cómo vous allez-vous?
Je vais très bien, et toi?
Bon, très bien. C'est où le café le plus près de chez vous? J'ai pas pris mon café ce matin.
Il y en a pas. Je vais te donner un café frappé serré avec du Death. On écoute du Death.
Du café métal.
Métal, ouais.
Ouais, qu'est-ce qu'on a écouté aujourd'hui? Bon, c'était Death, l'album numéro 3. Sorti en 2014, c'est pas mal une genre de compilation des derniers enregistrements de Death. Les fanatiques du groupe Death, ceux qui ont vu le documentaire ou qui ont découvert l'album For the World to See, qui est sorti en 2008, c'est leur dernier enregistrement. La chanson qu'on a jouée s'appelle North Street, qui était enregistrée en 1980. Si on connecte the dots en les années 80, c'était début heavy metal, toutes les albums qui ont sorti, fait qu'on peut s'imaginer les influences que... il aurait pu s'arriver pour eux, malgré la le build-up de leur carrière, à ceux qui ont vu le documentaire, comment ils ont pu avoir les opportunités quand ils ont rencontré Clive Davis. Clive Davis, ils ont dit, vous devez changer le nom du band.
Non, non, non.
Et ils ont dit, comme toutes les vraies punk attitudes, ils ont dit, non. Oh. Et qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, ben, ils ont continué à faire des enregistrements, ça ne s'est pas donné. Long story short, l'album s'est rendu dans un grenier d'un des neveux ou je ne sais pas trop quoi.
Exact.
Qui ont mis le Politicians in My Eyes en ligne en 2005, puis ça.
Ça a explosé.
Ça a explosé. Il y avait juste 500 copies du 7-inch qui étaient pressed. Ça a pogné une popularité. Ils ont sorti l'album du grenier, puis l'ont enregistré finalement, fait leur copie qui est sortie en 2008. Un album très recommandé à tous les fanatiques de punk, metal, heavy metal.
Proto-punk. Proto-punk. Proto-Stooges aussi.
Mais... Ouais. Quelque chose à...
De Détroit, il faut mentionner. On a déjà parlé de ce groupe-là. Avec ton cousin, on adore, tu sais, puis le documentaire, c'est A Band Called Death. Mais là, faut pas, puis encore là, on va le mentionner, c'est pas le super groupe Death de la Floride qui sont les précurseurs du death metal, où c'est vraiment trois dudes de Détroit des années 70 qui s'en allaient se faire signer sur le label de Motown qui voulait faire d'autres choses que du... de la pop, ils voulaient rentrer un peu des poulains rock and roll, et c'était eux qui étaient visés parce que c'est des Afro-Américains, mais pas juste pour ça, mais parce que s'il y avait c'était du Jimi Hendrix speedé, tu sais, une coche plus vite et tout ça. Mais c'est ça. Écoutez le documentaire. Quel documentaire? Et je te remercie d'emmener ce vinyle-là ce matin. Moi, moi j'en ai juste deux de Death. Puis lui, je l'avais pas parce que là, tu me l'as appris avant qu'on... C'est comme une compilation ou non,
ouais,
celui-là?
Ouais. Ça a été... je peux te dire l'erreur comme tu donnes la description des
films.
Ouais,
ben ouais.
Ben lui, ça dit c'est le troisième installment of the historic recordings made by Death. Fait que c'est des collections de chansons enregistrées de 1975 à 1992, comme North Street. Puis aussi les derniers enregistrements qu'ils ont fait en 92 quand ils ont reformé une autre fois pour faire les derniers enregistrements puis vraiment fermer la clé du groupe. Puis après ça, en 2000, je pense que c'est le guitariste d'un des trois frères qui est décédé.
Les frères Hackney, hein, je
Hackney,
pense.
Ouais. Fait que c'est vraiment les derniers enregistrements, tu sais, d'un groupe that could have been.
Ouais,
toutes
ouais,
les
ouais,
possibilités,
ouais, exact.
Les précurseurs comme What If. Tu sais, c'est vraiment comme comment un groupe a été apprécié 40 ans plus tard, comme The Stooges au début, c'était un groupe nowhere, le monde s'en foutait, mais quand Kurt Cobain a dit que Raw Power, c'était son numéro album, il y a comme un pick-up.
Que tout le monde est allé voir c'est quoi ses influences, on va l'écouter.
Aussi, un documentaire très bon, Gimme Shelter.
Ouais, ben ouais,
par,
de Jim Jarmusch.
Jim Jarmusch, qui est
ouais.
Excellent,
oui,
bien
oui.
Réalisé.
Ouais.
Puis tu peux apprécier aussi la musique. Moi, je l'ai vu au cinéma, fait quand ça jouait mes chansons favoris, là, puis tu entendais I Wanna Be Your Dog sur 5.1 ou whatever que c'était au cinéma, c'était vraiment le plus punk que tu peux avoir. Tu sais, c'était vraiment la distorsion maximum dans la salle de cinéma. Fait que, tu sais, c'est vraiment impressionnant de voir comme qu'est-ce qu'eux, ils ont parti les blueprints pour tous les groupes après ça.
Ouais. Puis ils ont comme continué un peu avec un des fils d'un des trois frères qui ont comme fait un comeback. Puis c'était très cool de voir ça. Mais si vous voyez le documentaire, puis vous regardez sur YouTube, vous allez tous trouver ça. C'est un groupe très pertinent, très le fun à regarder. Il y a un autre groupe qu'on va essayer de faire jouer, que je salue mon ami Francis de la Rive-Sud. Il m'a fait découvrir. J'avais déjà vu la pochette dans un disquaire, mais je savais pas c'était quoi. Ça s'appelle Pure Hell. Puis c'est quatre afro-américains qui faisaient du metal punk. En tout cas, il faut que je découvre ça. Mais c'est dans la même lignée. Mm-hmm. Fait qu'il y a bien des groupes, là, on dirait que ça a ressurgi des boulamines, des affaires que tu sais qu'on n'aurait jamais entendu parler, mais vu qu'il y a le web, les réseaux sociaux, tout ça, là, tout le monde dit « Hey, faut t'écouter ça. »
On aime ça, trouver des bandes que, genre,
ouais.
On dirait que ça nous donne une claque dans la face, comme si on avait 12 ans, puis un ami nous donne une cassette ou un CD, puis What is this?
Ouais.
Puis t'as hâte de l'écouter, puis on a comme.
On a perdu ça. Ouais, on a perdu cette excitation là, de faire découvrir ou de.
Ça, c'est l'âge.
J'ai fait une cassette.
Hein? C'est l'âge. Ça, c'est l'âge. Il y a de moins en moins de bandes qui nous intéressent. Mais il y a toujours un qui ressort ou deux. Puis ça booste notre.
Des nouveaux bandes, oui, je suis d'accord. Mais une affaire comme on a passé à côté, il y a une couple de bandes, j'ai comme passé à côté. Puis là, je les découvre. Là, puis là, j'essaie de ne pas le dire à personne. je connais ça. Je connais ça, Cryptic Slaughter. Non, mais Cryptic, je connaissais. Là, mais tu sais, d'autres affaires qui étaient tapées tout croche, là, de tape trading. Puis que, là, vu que c'était mal enregistré, on le mettait de côté. Mais après ça, on le redécouvre, là, comme vu qu'ils font des nouvelles copies. Puis c'est avec des bonus, là, on est tout excité. Hey, on a un super bon show. Je pense qu'on s'enligne pour un lundi, un Black Monday, un lundi métal. Parce qu'on va vous pas. On a un documentaire sur un groupe mythique de l'Antarctique. Oui, un groupe de l'Antarctique. On va vous en parler. On va vous en faire jouer de la musique. On va vous présenter ce documentaire-là. On n'a pas de bande dessinée cette semaine, chose assez rare. C'est des livres. On lit aussi, pas juste des images. Et de la bonne musique comme d'habitude. Puis je vais commencer tout de suite avec un livre qui s'appelle. J'en ai déjà parlé, mais je ne l'avais pas lu. Fait que ça faisait un petit peu poser, comme diraient les Metalheads. C'est sorti sur La Bagnole, qui est une maison d'édition québécoise. Et là, c'est Mini Punk, la série. C'est les bios qui ont du mordant. Et là, tu vas me dire comment qu'on prononce son nom à l'auteur, son nom d'artiste.
Pichier,
OK.
Ou Pichier?
Ouais, je sais pas. Ouais.
On va aller pour Pichier.
Fait
que c'est quoi que t'as dans les mains?
C'est Voivode, le trash metal expliqué aux enfants. C'est nice. De toute beauté. C'est vraiment un livre pour enfants qui est dédié. Moi, je le dédie à tout le Iron Fan Club de Voivode, tous ceux qui ont trippé sur le groupe de Jonquière. Et là, c'est vraiment l'histoire racontée aux enfants avec des dessins simples. Et il n'y a pas de phylactère, c'est pas une bande dessinée. Et tiens, je te le passe à l'instant. Et là, on voit les influences du groupe Voivode. Là, ils sont dans un endroit à Jonquière, dans la ville de Jonquière. C'est quatre amis qui décident de former un groupe de musique de thrash metal. Fait que là, on explique qu'est-ce que le thrash metal aux enfants. Et là, on voit les gars de Voivode qui sont dans un disquaire. Et c'est l'histoire du groupe. C'est très proche de... C'est vraiment la vraie histoire. Là. Fait que c'est vraiment cool. Fait que j'ai perdu comme un signe. Je pense que je voulais montrer quelque chose. Mais c'est ça. Fait que super beau livre. Belle initiative d'un sujet qu'on n'a pas vu souvent dans les livres pour enfants. Et moi, quand ça a sorti, je pensais même que c'était presque une blague. Et ce n'est pas une blague. Dessin réussi, image réussie, histoire réussie. Et là, j'avais mis un signe, on l'a remis là. Peut-être que c'était ça, je voulais parler. C'est qu'à un moment donné, dans leur trajectoire, Voivode, ça allait bien. Mais puis la musique grunge est arrivée. Ça a fait très mal à Voivode et à la musique métal en général.
And the rest was history.
Mais là, il y a un super groupe qui apparaît, qu'on connaît, Nirvana. Et là, Nirvana, les gars de Soundgarden, tous les groupes de Seattle ont toujours eu du respect, dont Dave Grohl, membre de Nirvana, pour Voivode. Fait que, puis quand il est venu jouer cet été à l'Auditorium de Verdun, qui n'avait pas ouvert ses portes au métal et au concert depuis belle lurette, je pourrais pas te dire quelle date exacte, Michel Hervé Langevin, drummer, membre original, un OG de Voivode, était très ému, avait le sourire d'en face quand il a dédié une chanson à Voivode. Fait que Voivode, c'est une longue histoire d'amour entre le Québec puis le métal, mais puis le reste de l'univers. Moi, j'étais allé une fois, j'étais allé au Portugal quand j'étais très jeune et Dimension Atroce venait de sortir. Fait que j'avais été au spectacle, il y avait une, on a déjà parlé il n'y a pas longtemps, les All Age Shows, les tout âge en début de soirée. Des fois, c'était dans le jour, mais ce soir-là, c'était comme à 7 heures. Puis après ça, vers 10 heures, c'était un 18 ans et plus. Mm. Fait que j'avais vu Voivod avec le groupe Violins et le groupe Cro-Mags Zordcore. Fait que le mix était assez bizarre, mais c'était un super bon show. Et j'avais acheté le chandail du concert, qui est la pochette de l'album, avec les tour dates en arrière. Et je me suis rendu au Portugal avec ce T-shirt-là. Et je suis rentré dans un disquaire, puis là, je flippais d'un disque. Puis il y avait le vinyle.
Je pensais que tu as dit qu'ils t'ont commencé à regarder, puis « Hey, who's this guy? »
Non, mais c'est presque ça. Fait que là, quand je checkais dans les vinyles, puis ils regardaient ce que je voyais le disquaire, là, j'ai sorti Voivod, puis j'aime mon T-shirt, puis là, j'ai dit, man, these guys are from Montreal. J'étais vraiment fier. J'avais une fierté, puis ouais. lui, il était comme, hey, lui, il trippait, là, Voivod, il était vraiment comme content, là, c'est d'avoir des vinyles deux à vendre. Puis Dimension Atroce, c'est un album très important. Fait qu'anyway, tout ça pour dire que je vais vous lire la quatrième de couverture, j'aurais dû commencer par là. C'est un jour, quatre amis décidèrent de former un groupe de musique thrash metal. Ils donnèrent à leur groupe le nom Voivod. Voivod, c'est le nom d'un prince, presque un prince roumain dans le temps des châteaux et tout ça. Fait que, il y a un côté sanguinaire, un peu le prix Dracula.
OK, de appelant Vlad the Impaler.
Ouais, c'est dans ces eaux-là. Fait que Michel Aouil Langevin, qui a tout fait la conception, il pourrait nous en parler plus, là, mais en grosso modo, c'est ça. Fait que petit à petit, des graffitis de Voivod commencèrent à apparaître dans toutes les cours d'école, sur les chaussures des élèves, dans les rues, sur les clôtures. Et là, c'est ce qu'on a. Super beau livre. Des éditions La Bagnole, groupe de livres de Québécois.
Nice.
Fait que lisez ça, donnez ça à des jeunes. Si Nelson serait là, je voudrais que son fils, son jeune fils qui nous a accompagnés à 77.
Shout out à les enfants de Nelson.
Exactement, à tous nos enfants, à toutes nos blondes, à nos amis, parce que c'est un tripeux de rock et je trouve que ça, c'est une super belle initiation dans l'univers du rock expliqué aux enfants.
C'est vraiment cool. C'est quand que Voivod a été formé?
Oh, là, tu m'en poses une bonne. C'est des années, autour des années 80. Warren Payne, qui est leur premier album, je pense que ça tourne autour des années 84, là, okay, de mémoire.
C'était dans le wave de thrash metal.
Oui, ben, ils ont eu un wave thrash metal, un autre wave progressif, un autre Angel Rat, c'était presque du... T'sais, ils sont tenus avec les gars de Doughboys. L'album était pas mal plus tranquillos, mais il était bon pareil. Je l'ai apprécié plus par la suite. Fait que tout ça, il y a eu bien des évolutions. Il y a eu la fameuse cover de Pink Floyd, Astronomie Dominée, ou Astronomie Domaine, dépendant de qui le demande. Puis ce vidéoclip-là, qui était assez innovateur pour le temps, a joué à les MTV aux États-Unis, à Power Hour, à Much Music, à Music Plus. Ils jouent en rotation énormément. Fait que ça a eu beaucoup de diffusion.
Ils ont fait leur mot, ils ont mis leurs pieds.
Ouais. C'est une super grosse influence pour tous les groupes metal, autant québécois, canadiens qu'international. Les gars de Sepultura, maximum respect pour Voivod, puis vice-versa.
Là, je pense que je vais checker un peu, mais je n'ai jamais écouté du Voivod.
OK. on va en faire jouer.
C'est donne les devoirs. Là.
Ouais, exactement. Je sais que tu le demandes, on va en faire jouer.
C'est juste lundi matin, Marc-André.
Exactement. Ben, c'est vrai. Tu as toute la semaine pour te rattraper. Fait que tout ça, Voivod, le trash metal expliqué aux enfants, paru dans les derniers mois. C'est assez récent.
Nice.
Tu sais, on est dans le métal. Restons-y dans le métal. Là, le temps, comment qu'on est dans le temps? 19 minutes, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est l'atterrissage.
Là, t'as un gros livre dans les mains. Là.
Exactement. Avant, à propos de Lemmy, c'est Mr. Lemmy Kilmister de Motorhead. Et là, c'est un livre en français qui s'appelle « Tout l'art du métal », qui est écrit par Martin Popoff et Malcolm Dome. Et là, ce livre-là, je vais lire le quatrième de couverture. Ça tente-tu de le lire, tiens? Je te fais travailler un matin.
Oh, je suis pas trop réveillé, mais let's go! Bon, Black Sabbath, Motorhead, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, Judas Priest, Slayer, Dream Theater, Dimmu Borgir, la New Wave of British Heavy Metal, le Hair Metal, le Doom et le Stoner, le Nu Metal, le Black Metal, le Thrash et le Death Metal, le Prog Metal, et... Des groupes mythiques, des genres iconoclastes et des univers inédits. Le métal, c'est l'irruption après le flower power et contre le punk d'un son totalement neuf, puissant et énergétique. Mais le métal, c'est aussi l'avènement d'une esthétique à part, d'un graphisme singulier et étrange. Pour la première fois, retrouvez dans ce livre tous les illustrateurs, toutes les pochettes et toutes les mascottes, tous les logos et toutes les posters qui ont marqué à jamais le métal. Un ouvrage exceptionnel pour comprendre et suivre une révolution aussi bien musicale qu'artistique. Avec une préface inédite de Let Me Kill Mister.
Bravo. T'es sur le speed comme Motorhead. Motorhead, c'est les têtes de speed par excellence. C'est un livre assez exceptionnel. J'en ai vu pas mal de livres de métal. Généralement, je suis plus ou moins déçu et tout ça. Mm-hmm. Mais là, qu'est-ce qui est vraiment cool, oh, c'est wow. qu'on montre les pochettes. On montre des pochettes aussi. Pas les classiques. Oh, regarde, mais on tombe sur Poison, on tombe sur le Hair Metal. C'est ça, il est divisé en chapitres. Je vais essayer de trouver. Fait qu'en gros, on parle des origines, le métal traditionnel, le New Wave of British Heavy Metal. Mm-hmm. Ça, c'est tout ce qui est Iron Maiden, Judas Priest, tout ça.
Début 80,
non? Ouais, à peu près. Après ça, le Hair Metal, ouais. avec Poison et compagnie, le Doom et le Stoner, le New Metal, Korn et compagnie, le Black Metal, le Trash Metal et le Death Metal, et le Prog Metal. Mais qu'est-ce qui est cool là-dedans? Fait que là, on voit l'introduction Iron Maiden, même Van Halen, Molly Hatchet, tout ça. Et on voit des pochettes et de l'or qu'on voit pas souvent, System of a Down, puis tout ça. Fait que là, la pochette, il y a deux pochettes que moi, je dis qui sont classique, là, qui c'est la base de l'iconographie. Bon, t'as le groupe mythique Black Sabbath qui est la base fondamentale du style musical, mais la fameuse pochette de cet album-là, ouais, qui est comme qui est très eerie, très spooky, très mm-hmm. film d'horreur. T'as une femme qui est, jaune, blanche, cadavérée, un peu comme un cadavre, comme un spectre qui apparaît devant une maison avec une forêt un peu bizarre.
C'est
dans
comme une erreur de photographie puis un petit fantôme de fond. Là.
Exactement. Tu sais, c'est comme... On part de là puis on se promène là-dedans, Fu Manchu, là, quand on est dans le Stoner. Puis là, on voit beaucoup de graphiques vraiment intéressants qu'on voit pas nulle part ailleurs. Les posters de show, les t-shirts, les stickers, les inserts de pochettes de vinyle ou de CD. Fait que c'est très, très, très intéressant. On voit même aussi la photographie. On voit même le monde du métal avec la lutte. On a vu ça un peu.
Quand il a travaillé un soundtrack, comment ça se voit que c'est début 2000?
Ouais, ça c'est pour la World Wrestling Federation. T'as Insane Clown Posse. Voyons comment c'est cool.
Insane Clown Posse,
ouais. T'as Fred Durst qui est un SummerSlam de la lutte. Fait que on voit que le métal aussi par la suite est rentré dans ce qu'on appelle la culture populaire, le mainstream d'une certaine façon. Des pochettes qu'on peut pas décrire ce matin. Beaucoup de têtes de mort que j'aime, beaucoup du signe du diable. Une pochette aussi mythique de Celtic Frost qui était faite par nul autre que H.R. Giger. La pochette intérieure aussi. C'est de toute beauté. Là, les logos, là, c'est comme le wild style du graffiti. Mm-hmm. Plus dans le death metal, plus ton ban était méchant, était heavy, plus c'était dur à lire.
Plus difficile à lire.
Plus cryptique, plus morbide, plus decay, tu sais, tout dégoulinant, tout ça.
C'est moi ou c'est dernièrement, les derniers 10 ans que... Ils sont allés dans cette direction.
Moi, je dirais même 20 ans. 20 ans, okay. 20 ans, ouais. Ça se fait. Ouais, avec des bandes comme Napalm Death, Carcasse. Les pochettes de Carcasse, c'est assez ketchup, là. Tu sais, parce que les gars de Carcasse, là, on pourrait en reparler, là. Je pensais pas m'en aller là. Les gars de Carcasse, il y avait un gars qui étudiait en chirurgie. Fait que lui, les ouvrir des bodies puis tout ça, ça faisait partie de son quotidien en école de médecine. Fait que lui, il faisait de la musique on the side, puis ça a resté. Ça, c'est la légende. Fait que leur pochette, quand ils rouvrent ou sur la pochette, habituellement, c'est très...
très graphique.
C'est très graphique, puis c'est des photos et des collages, là, comme les band punk. Là, on faisait bien du collage, des images cut and paste, mais avant Photoshop, là, avec des exactos et de la colle. Fait que là, les fameuses pochettes de
Slayer,
Sepultura, tout le côté des Big Four, Megadeth, Metallica et compagnie.
Il faut dire que ça, c'est des pochettes pré-internet, fait que c'était pas mal le genre les albums que tu devais cacher à...
Ouais.
De nos parents dans le temps, tu sais, c'était nouveau, c'était jamais vu, c'était super naturel.
Ouais.
Tu sais, c'était vraiment rare, mais super naturel. Fait que beaucoup de monde qui a un background très spirituel, religieux, entre guillemets.
Ah non, ouais, ça clashait.
C'était un album que tu devais cacher, mais c'était quand même un artwork, le genre de artwork que tu peux vraiment analyser, puis comment ils sont dessinés, comment ils sont faits, tu sais... Ben, je pense que les Megadeth, c'est quand même nice.
Ouais, avec la mascotte de Vic Rattlehead, ouais. Hein, c'est sûr. Regarde, on a une série de pochettes. Tu sais, les années 84, la guerre froide, puis tout ça, a laissé une marque sur tous ces groupes-là sur la peur de Fear of the Nuclear, tu sais. Fait que t'avais un groupe qui s'appelait Nuclear Assault, Game Over, c'est une ville, le champignon explose, Destruction, à peu près même affaire. Carnivore, c'est les armements. Metallica, la fameuse Master of Puppets, des soldats morts.
Comment on appelle ça, les Unknown Soldier?
Ouais, les tombes des inconnus, ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a, tu sais, tout est dans tout. On a Michel Aouet-Langevin, on a un article sur lui qui dit qu'il repousse les limites du trash, bouleversant les fondements même du style. Fait que là, Michel dit, une bonne partie de mon œuvre était inspirée de mes cauchemars et des bruits d'usines que j'entendais. Eux autres étaient à Jonquière. Alors, l'art et la musique sont intimement liés pour moi. Fait que lui, en plus de drummer, a développé le concept du guerrier voïvode, le morgol, et a fait toutes les pochettes. Au début, les pochettes étaient faites, c'était de la peinture acrylique ou à l'huile, des dessins pen and ink à l'encre de Chine, très détaillés. Après ça, il y a eu, je me rappelle, il était un des premiers à avoir un ordinateur Amiga qui pouvait faire les graphismes. Fait qu'il a commencé à faire des graphismes à l'ordinateur, et après ça, ben il a développé là, son style. Moi, il y a une pochette que j'ai vue, justement celle de Dimension Atroce, à l'usine sans issue, allée sur la rue Roy, à côté du LC's, le bar. Et la pochette originale était là pendant un mois de temps et c'était faite sur une boîte de carton qui ressemble à peu près à la taille d'une boîte de pizza. Okay. C'était sur une boîte de carton, puis c'est cette œuvre-là, cette peinture-là qui était peinte sur le carton, qui a servi à la pochette de Dimension Atroce, qui elle n'est pas atroce, elle est merveilleuse.
Ça sonne très Banksy.
Oui, c'est ça, exact. Et là, on a une autre affaire que j'aime bien gros. Comme je disais, il y avait les logos. Et dans les logos de toutes ces bandes-là, c'est comme le Crest et l'Écusson, c'est comme une compagnie. Testament, King Diamond avec le Bat, Twisted Sister, Wasp avec les Sirones assis, Twisted Sister, leur fameux logo qui est comme un T puis un S, Kiss Army, Motorhead, Slayer, nomme-la. Et là, on a la culture des patchs et des blousons qu'on mettait sur nos côtes de jeans. Et là, c'est comme une marque de... On est comme une pub, on est comme un homme sandwich. On fait de la publicité pour les bandes métal. Et moi, ben j'en suis un. J'ai recommencé à prendre mes vieux côtes de jeans et à leur trouver des patchs.
Nice.
Fait que c'est un autre monde. C'est une drogue. Fait que je vous recommande ce livre-là.
A work in progress, c'est ce que tu veux dire.
Exactement. Les petites patchs sont toutes là. C'est la big back patch. Tu sais, c'est très important de choisir la bonne parce qu'après ça, ça te représente puis est sur ton manteau. Tu peux la découdre, mais je vois pas la découdre. Là. Ou tu peux faire comme les punks puis mettre juste des épingles à couche puis la changer à chaque fois que tu vas à un show, mais non. Pendant longtemps, j'ai pensé à Motorhead, parce que Motorhead, ça a uni deux de mes passions dans ce genre de musique-là, le punk puis le metal. Ouais. Puis c'est un des groupes qui... le mariage entre les deux parfait.
Le mariage parfait, ouais.
Fait que ça pourrait, mais faut qu'elle. Je veux pas nécessairement le hedgehog. L'espèce de. Tu sais, le logo, le fameux sanglier. Cherche de quoi là, de particulier. Puis à un moment donné, je vais tomber dessus puis je vais dire c'est ça qu'il me faut puis c'est ça que je vais me mettre dans le dos.
Burn un hedgehog.
Hein? Ben non, mais peut-être. Mais c'est pas. Mais c'est quoi le nom du. Ah, c'est le. On va regarder ça pendant la pause. C'est le. Ah là là. Le blanc de mémoire ce matin. Il est trop tôt.
Il est trop tôt là.
On va y aller en pause tout de suite. Fait que quand on va voir venir, on va continuer en musique sur les ondes de sécurité 90.3 FM.
À tantôt.
Sultan Entertainment Canada and Tanya L presents to you the I Am Reggae event. It all goes on Saturday, September 2nd, Labor Day weekend, and featuring live from Jamaica, Rory Stone Love.
The Stone Love sound will play every time. Rory, you jump on double dance.
Alongside Crystal Sound International, James Bond, Selector Blondie, Fiat, Energy Squad, and Little Vicious. For more information, check out Sultan Entertainment Canada on Facebook.
Massive.
Vous écoutez CKUT.
Avec Marc-André Jutras, je suis César. Un shout-out à Nelson qui n'a pas pu être ici ce matin. Ce qu'on vient d'écouter, c'est Voodoo Shango Experience. Et la chanson était Blaxploitation Movie.
Exactement.
Quand même un tight arrangement, les horns, la batterie. C'est quand même solide comme groupe.
Mais définitivement. Et en plus, ils étaient en show. Il y a des spectacles dans le Vieux-Montréal. le midi, à chaque midi, ça a l'air. Et ben, vendredi dernier, là, ben là, on ne dira pas la date, là, mais un vendredi, ils ont joué. Et c'était à midi devant le monde qui vont prendre leur lunch là, dans le Vieux-Montréal. Et ça avait l'air la fiesta. Moi, le vendredi soir, quand j'ai su ça, j'étais un peu triste. J'aurais aimé ça m'absenter, aller voir ça pendant le midi. Et fait qu'ils ont fait un set funky, on jouait une heure et ça a été filmé. Fait que le soir, vu qu'il pleuvait beaucoup puis tout ça, ben je l'ai écouté à la maison, dans le confort de ma maison. Fait que c'était exactement le 30 juillet 2023. Ça s'appelle la Zone Musique à Place d'Armes. Fait que si vous êtes dans ce coin-là pendant l'été, sortez, il va y avoir des groupes à l'heure du midi. Et là, ben, il était sur un petit tapis en gazon là, synthétique là, dans le parc. Je pense c'est en face de la cathédrale Notre-Dame. Si je ne me trompe pas, ça ressemble à ce genre de carré-là. Si ce n'est pas là, ben, vous chercherez. Et ils ont fait un set de feu, dont cette pièce-là qu'on vient d'entendre, qui est sur leur album qui s'appelle tout simplement Funky Spaghetti. Et ben Alex à la bass, il y a Padre Santo au conga, il y a Serge au drum, Johnny Chango à la guitare, Kim Paris à la trompette, le saxophoniste là, par cœur, on va regarder dans pochette pendant que je vous parle. Et aux keys, au keyboard, on avait nul autre que Joe Evil, Mr. Grimskunk, en personne, qui était là, avec sa chemise carottée. Mais après quelques pièces, il l'a enlevé parce qu'il devait faire chaud. C'était une journée très, très humide.
Saxophone, c'était Mark Daddy Savio.
Et le guitariste aussi, non le moindre.
Eric Gies.
Yeah. Gies. Fait que c'est tout ça. Chango, c'est vraiment un band incroyable. Allez les écouter. Je suis très content qu'ils ont joué à cet événement-là. Je vous en ai déjà parlé. Je vais toujours continuer à vous en parler. Et leur set étant en feu, je trouve qu'ils prennent du galon à chaque fois qu'ils font des shows. À chaque fois, je connais un peu plus les pièces. Puis ils ont une énergie débordante.
Ça se voit qu'ils ont du fun à jouer ensemble.
Ouais, exactement. Puis qu'est-ce qui était très drôle, c'est que Alex porte une perruque comme Afro, le bassiste. Et Johnny Chango, c'est bien bidonné quand il a perdu, parce qu'il saute tout le temps, il est très énergétique, le bassiste, un peu comme Flea, et il a perdu sa perruque.
Oh.
Fait que j'imagine, en dessous du casque de poil, il devait faire chaud, pas à peu près, c'était facteur humidex 100%. Puis à un moment donné, il met sa perruque sur le bass drum, tu sais, sur le. Puis à un moment donné, il a chaud, puis les autres ont des serviettes, puis lui, il trouvait pas sa serviette, il a pris sa perruque, puis s'est épongé avec. Fait que juste voir ça dans le vidéo que sûrement il va sortir sur YouTube, vous regarderez ça, c'est de toute beauté. On continue, on a plein de choses à se dire. Là, j'ai vu un documentaire sur un groupe qui vient de l'Antarctique.
C'est qui ça, Marc-André?
Est-ce que c'est
ce que je pense que c'est?
Oui, il est peut-être trop tôt pour en parler. C'est le groupe le plus comment je peux dire? C'est pas le plus dévastateur. Le groupe le plus... C'est The True Story. Comment ils vendent le documentaire? C'est The True Story of the World, of the sickest band in the world. Et là, j'ai nommé This is Gwar. Et là, c'est un documentaire sur la troupe musicale, théâtrale, créative que sont Gwar. Que dire de plus? Ben tiens, vu que toi, ton anglais est supérieur au mien.
Well, the powerful story of the most iconic heavy metal art collective monster band in the universe as told by the humans who have fought to keep it alive for over 30 years. The feature documentary includes interviews with members of Gwar, both past and present, as well as other artists, including Weird Al Yankovic, Thomas Lennon, Alex Winter, Ben Margera, and Ethan Embry. Also include never before seen footage of a legendary Gwar frontman, David Brokey. This is Gwar. Will make you cringe, smile, laugh, gag, and cry. Ça sonne, on dirait comme un petit hommage à This is Spinal Tap.
Ouais, mais hey, j'étais tellement excité, c'est sorti sur Shudder Exclusive. Ah. Très excité d'avoir ça entre mes mains. Moi, je cherche depuis très longtemps un livre qui est sorti sur Last Gasp, sur tout le processus créatif du groupe, les dessins, les croquis, les costumes, tout ça. Et il est introuvable. Même sur des sites usagés, tout ça, très, très cher. Mais là, avec le documentaire, ça a comme fait une bombe sur ma plaie qui n'est pas encore cicatrisée. Hey, c'est super bon. Moi, j'ai vu Gwar 3 fois et j'en ai appris énormément. Dont, j'en ai déjà parlé ici, il y a un film qui s'appelle Empire Records. C'est comme un teen movie, mais au passage de l'âge adulte. Puis, il y avait bien des problèmes s'il allait le faire comme, tu sais, Parental Guidance ou PG-13 ou, tu sais, aux États-Unis, les règles pour... Ça fait tout le succès au nom du film. Puis, parce qu'il y avait des sujets comme la sexualité, la drogue, tout ça, assez intense. Et dans ce film-là, il y a une scène classique, mémorable, qu'un des personnages qui travaille dans... C'est l'histoire d'un clerk qui travaille dans une boutique de vinyle, ce que nous, on aurait aimé faire étant jeune ou même étant vieux.
Dans un monde parallèle.
Dans un monde parallèle.
C'est ça qui... On est en train de travailler ensemble. Puis,
Ben, c'est ça, mais ça, on fait presque ça. Mais ce gars-là, une année, il mange des muffins. OK, là, les enfants n'écoutaient pas ça. Il mange des muffins aux potes.
Et,
fait que son jinxé, fait qu'il mange, et là, il écoute la TV dans la salle de repos, et il voit Gwar, une vidéo de Gwar en live, en spectacle, et il rentre dans la télévision, il passe de l'autre côté de l'écran, et là, il est une des victimes, parce que Gwar, faut le dire, si vous ne savez pas ce que c'est Gwar, c'est une troupe de, on va dire, des monstres qui viennent de l'Antarctique, qui ont dégelé de l'Antarctique, et qui nous remet dans la face tous les travers des humains. Et il aime massacrer des humains. Fait que dans la vidéo, ce jeune-là se fait manger par une espèce de gros worm puis tout ça. Fait que dans la vidéo, dans le documentaire, ils sont allés voir le comédien qui joue, qui avait peut-être 15-16 ans dans ce temps-là, mais qui est rendu à peu près à ton âge, je dirais pas ton âge, mais admettons dans la trentaine, quarantaine. Et c'est de toute beauté cette anecdote-là. Weird Al Yankovic aussi parle d'eux. Il y a beaucoup de monde qui ont énormément de respect parce que même ça a l'air d'une troupe de Mongols à batterie, excusez l'expression entre guillemets, ils ont quand même développé un univers. Ils ont créé de la musique. Au début, c'était un peu tout croche, tout ça. Mais avec le temps, ils ont développé une image. Il y a des bandes dessinées. Ils ont fait des films.
Nice.
Le film, je dirais pas le mot, mais quelque chose in Wonderland, c'est même rendu dans les vidéos, les musiques vidéo, dans les Grammys. Ils n'ont pas gagné, mais ils sont allés très loin.
Hmm.
Fait que c'est ça. Ils ont tout le temps eu des bâtons dans les roues, on peut comprendre, parce que ils critiquent toute la société, surtout américaine, mais mondiale.
Okay.
Fait que tout ce qui est sexisme, racisme, la pop culture, les guerres, les despotes, tout ça, ils tirent sur tout ce qui bouge. MTV, les autres artistes, c'est ça, ils se sont moqués de les Michael Jackson avant les scandales à les artistes glam rock, air metal.
Il laissait aucune victime.
Il laissait aucune personne indifférente. Tout le monde passait au collimateur de Gwar. Et en show, c'est une pièce de théâtre et tu reçois énormément de liquide fluide.
Ça, j'ai entendu.
Fait que si tu vas à un show de Gwar, tu mets un chandail blanc et ton chandail va devenir il va être dégueulasse et ça va être ça ton souvenir du spectacle de Gwar. Fait que le documentaire parle aussi des conflits internes. C'est un collectif, finalement. Hein?
Okay.
Gwar, en arrière de ça, c'est un collectif. C'est des autodidactes, du monde qui ont étudié en cinéma, d'autres qui ont étudié en art, puis qui ont développé leur propre, comme des masques latex, comme des films d'horreur, avec des stéréos, de la mousse, tout ça. Se sont fait des costumes à partir de... des habits de football, ils ont rajouté des pads puis des choses par-dessus. Fait que c'est du grand guignolesse, mais sanglant. Et là, si je regarde le flyer qui est en haut de ma tête, le 31 décembre, au Théâtre Rialto, d'une certaine année, avec les Lunatics, il y avait Gwar, puis on disait que c'était plus gros, plus large et plus saignant.
Hey boys, ça c'est...
Ça, c'est dans les années 90. La date exacte n'est pas inscrite. Moi, je dirais que c'est autour de 95 environ.
OK, ça fait un bout qu'ils existent.
Oui, ça fait très longtemps qu'ils existent.
Je pensais que c'était début 2000.
Aussi. Non. Ils existaient bien avant. Au début, c'était du punk hardcore parce que le chanteur, qui est Odorous, avait son propre groupe. Si vous écoutez le documentaire, vous allez tout comprendre, la trajectoire. Dans le fond, c'est un cinéaste d'un côté dans un local désaffecté. À côté, une troupe de punk rockers, arts rock, qui se sont mélangés et qui ont formé une troupe. Puis c'est devenu Gwar. Fait que là, tu as une cassette dans les mains, original de l'époque, qui s'appelle L. Hello. Hello.
Comme et Jello.
C'est comme Jello et c'est de toute beauté. Cet album-là, il est enregistré un peu lo-fi, mais l'énergie, l'attitude est là. C'est un des albums que j'écoute encore. Les derniers albums, c'est plus overproduced et ça m'intéresse un peu moins. Mais écoutez ça, si vous êtes des fans de musique punk, metal, de théâtre, c'est de toute beauté. On voit aussi le talent. C'était tous des artistes dans le groupe, autant musical que art visuel, ou du monde qui savait comme faire des mix pour que le son soit plus collant et tout ça. C'est un groupe qu'il faut voir ou revoir si vous ne les avez jamais vus. This is Gwar. Et tant qu'à parler de Gwar et que le temps file, ben quoi,
on va
jouer une chanson. J'espère qu'elle est bien cuée. On va l'essayer. Si c'est pas Gwar, ben après.
You
est de retour le lendemain de la veille avec Marc-André Jutra. Qu'est-ce qu'on a écouté?
Gwar, de l'album Scum Dogs of the Universe. J'ai juste dit le nom, je trippe. Juste en regardant la pochette, je trippe avec un gros parental advisory, explicit lyrics, comme on aimait tant quand on était jeune. Et c'était Sick of You, hein, il l'a dit pendant toute la chanson. Et je t'ai vu, tu sais, tu n'avais jamais écouté. C'est la tune la plus accessible de Gwar. Fait que, tu sais, c'est lundi matin, je veux pas perdre tous nos deux auditeurs et auditrices, mais c'est la toune d'un vidéoclip aussi. Ils ont fait comme un... C'est comme c'était le single de l'album. Et, tu sais, je t'ai dit, écoute attentivement le bridge.
C'était vraiment quelque chose... il a changé son style de chant.
Ouais.
Puis on dirait qu'il y avait comme un soulful bluesy, puis après, exact. Il lâche un cri...
Ouais.
Plus rock.
Ouais, il y a bien
comme
rock.
Un mélange de overall de chants, comme trois styles de chants dans ouais. une chanson. J'étais quand même impressionné. Ça me donne, là, tu me donnes un autre devoir. Là. Écoutez, Gwar. Puis,
ah ouais, mais là, t'as une dizaine d'albums à.
Puis Voivod.
Puis Voivod, ouais. Hey, là, ouais. On a pour un mois et demi minimum. Mais c'est ça, le chanteur, c'est le légendaire, le Gwar frontman qui faisait Odorous Humong. On va l'appeler juste Odorous. Et c'était Dave Brookie, chanteur de Gwar, qu'on a entendu la voix, qui est décédé quelques années à 50 ans, qui était le frontman, un des cerveaux du groupe, sa présence. Il prenait beaucoup de place. Si vous regardez le documentaire, à un moment donné, je pense sa vie a comme un peu été downhill, puis tout ça, même si Gwar n'a jamais eu comme un succès comme... monstres, mais ouais. ils ont des fans. Tu sais, l'Army de Kiss, là, on peut dire ce qu'on veut, sont fidèles. Mais la Gwar, s'il y a une Gwar Army, les fans, c'est du monde fini. Moi, le dernier show que j'ai vu de Gwar, c'était au Club Soda. Puis j'ai vu des amis que j'avais pas vus depuis à peu près 15 ans.
Wow.
Mais il était à Gwar.
Il était à Gwar.
Fait que nous, le running gag, on s'est dit, même si il faut qu'on vienne en chaise roulante, en béquille,
on
en civière, on va aller voir Gwar la prochaine fois qu'il vient à Montréal. Moi, j'ai pas revu de show passer depuis le... Ce... Mais je pense qu'ils ont joué à Montebello, ils ont joué dans des festivals estivales, mais c'est pas la même chose. Faut que tu voir en dedans, faut que tu sois près du stage, faut que tu te salisses, faut que tu...
Passe l'expérience. Faut que tu vis l'expérience.
Faut que tu vis l'expérience, là, tu sais. Ouais. Mais là, je pense que l'expérience est un petit peu ce que je vois des derniers concerts qui montrent justement dans la vidéo, tout ça. Le côté de théâtre est un petit peu plus dilué et la musicalité est mise de l'avant. Là, c'est tous des super bons musiciens. Et là, vu que le chanteur était mort, on pouvait se dire il n'y aurait plus de Gwar. Mm. C'est presque ça qui est arrivé. Ils ont fait... eux autres, ils viennent de Richmond, aux États-Unis.
Ça, c'est Virginia?
Virginia, si ouais. je ne me trompe pas. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme un espèce d'enterrement viking. Ils ont mis la carcasse du costume de Odorous sur une planche de flottaison. Ils l'ont pitché dans le milieu du lac. Ils ont pris des flèches. Et des arcs, ils l'ont mis en feu. C'était wow. de toute beauté. Fait que là, le personnage de Odorous, il est mort. Et là, la légende, c'est que c'était Beefcake, un des premiers bassistes du groupe qui venait chanter. Sauf que Odorous, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait un nouveau personnage. Le bassiste, c'est, admettons, c'est Beefcake number, Mighty Number 3. Fait que c'est un autre gars qui joue le bassiste. Mm-hmm. Et c'est vraiment le premier bassiste de Gwar
qui chantait
déjà dans ses band punk avant. Ils l'ont ramené. Là, lui, il joue plus de la bass. Et ils ont fait un nouveau personnage que là, je vais chercher, je ne trouverai pas, qui a pris sa place. Moi, je ne le trouve pas peut-être autant charismatique, mais ça reste en famille de Gwar, ça garde l'esprit de Gwar. Puis il y a quand même une très bonne voix, une très bonne présence. Mais je pense qu'ils sont moins hardcore que la première fois que je les ai vus. Ils ont mis un peu la pédale.
Je pense qu'il faut qu'ils ralentissent un peu avec le temps.
Exact.
Moi, je les ai découverts par un article sur Vice.
Ouais.
Il a popé il y a peut-être 10 ans. Là. Il voulait sortir des articles un peu
choquant.
Cool, choquant. Ouais, ouais. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y a un « this band called Gwar ». Puis j'ai dit « c'est quoi cette band bizarre ?» Puis moi, je pensais que c'était un groupe qui fait, il venait juste d'exciter début 2000. C'était quand même intéressant. Puis l'une des premières mentions, c'était les fluides qui se faisaient shooter sur le front line de l'audience.
Ah ouais,
c'est... Mais quand même intéressant. J'ai vraiment aimé la musique. Puis c'est quoi, j'allais dire...
Une cassette qui tombe.
Non, problème technique, attention. Problème, ouais. Mais quand même, tu vois que... Tu sais, des articles. Plus avec l'Internet, je pense que ce band-là, il aurait pogné plus.
Oui, probablement, oui.
Tu sais, c'est pré-Internet, fait que c'est vraiment un cult fanbase que ça a juste été gardé avec les décennies. Puis... Mais si ce band, je pense que si ce band, il aurait sorti maintenant, dans les derniers, ouais. Ça, il aurait pu avoir le gros fanbase. Puis le monde voulait voir quelque chose de différent, puis ça serait pas aimé. Je pense que ça se donne pareil.
Oui, mais moi, je vais te dire quelque chose de la manière que moi je vois ça, c'est qu'il y avait un culte sur ce groupe-là, underground. Les punks, les metalhead, les altern, tout ça, allaient voir ça au Foufoune électrique ailleurs. Ils ont joué à Brick, ils ont joué. C'est où qui m'avait impressionné à Brick? C'était. À Brick, Club Soda, mais Rialto. Rialto, la première fois que je les ai vus, New Year's Eve. Anecdote, tranche de vie, je vais te raconter ça. Mes parents, quand j'étais jeune, j'étais ado, ils partaient tout le temps dans le sud aux fêtes. Des fois, je les accompagnais, souvent non, parce que je restais à Montréal avec mes amis, mes cousins, puis on faisait le party le 24, le 25. Et le 31, il était supposé avoir un party de familial, un reunion, puis un de mes oncles me surveillait, entre guillemets. Je te salue, Bert, si tu m'écoutes. Et là, il me dit, ben, tu viens le 31, on est le 25, admettons, le 25 décembre. Il dit, tu viens le 31? Je dis, ah non, j'ai quelque chose. Il dit, t'as quoi? Ah, je dis, ben, je m'en vais voir un spectacle. Le 31, ouais. Fait que là, il me rappelle, il me reparle. Il dit, qu'est-ce que tu t'en vas voir exactement le 31? Où tu vas au Rialto? Tu t'en vas voir Gore. Fait qu'il y avait des articles qui parlaient. Il y avait déjà
un espèce de warning aux parents. Surveillez vos enfants, exact. Le 31.
Genre. Mais tu sais, mes parents n'avaient pas ce contrôle-là. Fait que lui, il ne l'a pas eu non plus. Parce que je me suis ramassé à Gore avec des amis. Et c'était un des meilleurs 31 décembre de ma vie. Celui-là et l'autre avant ou après, qui était avec My Dog Popper, DBC, AZ Azure. Et les No Means No. Mais ça, c'est une autre histoire. ça sera pour un prochain épisode. Mais Guar au 31, au Rialto. J'adore le Rialto. C'est un ancien théâtre de cinéma. Il existe encore. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'air en dedans, à l'extérieur, mais c'est deux étages avec mezzanine. J'ai vu les Ramones là. J'ai vu d'autres shows.
Oh, wow.
Mais Guar puis Ramones au Rialto, je crois que c'est imbattable, d'après moi-même. Oh. Mais dans des shows. Et surtout le 31 décembre, il y avait comme une énergie.
Ouais.
Tu sais, il y avait comme un danger dans l'air. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer?
Puis c'est le 31, c'est comme...
C'est party.
C'est le party. Puis je pense... Moi, selon moi, on dit que je suis censé être quelque part, mais je suis pas censé être au concert.
Ouais, il y a comme un danger puis un interdit.
C'est comme, je suis censé être quelque part, je suis censé être des amis, mais je suis pas là. Je les ai comme abandonnés. Je pense que c'est un peu le guilt.
Ah, OK, ouais.
Mais tu sais, t'étais là, puis c'est une expérience.
Ah, je plaide coupable à cette cuite du nouvel an qui va rester mémorable pour le restant de ma vie. Écoutez ce documentaire-là, même si vous ne tripez pas nécessairement métal, tout ça. Il y a vraiment... l'aspect Spinal Tap, comme tu as dit.
Ouais.
Il y a l'aspect plus grand que nature des affaires que tu... ils ont joué à... Comment elle s'appelle, la blonde aux États-Unis? John River. Ils sont allés à John River. Peux-tu t'imaginer? Les gars, ils ont des casques, des masques, sont à moitié nus, sont comme en homme préhistorique du futur monstrueux. Puis ils peuvent dire ce qu'ils veulent parce qu'à ce moment-là, leur identité est comme secrète. Où il n'y a pas grand monde qui savent qui est qui. C'est après ça qu'on a vu leur visage et tout ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, en revenant à ta question, le côté Internet aurait comme trop dévoilé d'affaires. Les cellulaires, on aurait vu trop de spoilers. Ils vont couper la tête de tel personnage. Ah, oh, le monstre va être fendu en deux, le Godzilla qui apparaît. Non, on veut pas ça. C'est ça, on savait pas à quoi s'attendre. Fait que c'est juste ça que j'ai à dire.
Écoutez du Guar l'été, c'est Covio, c'est cool. Avouez qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions matinales qui vont vous faire jouer du Guar.
Du Guar à sécurité 90.3
FM. Hey, merci à toi, César. Le temps file. On se voit la semaine prochaine.
Ciao, ciao tout le monde.
Bye. Hasta luego.
Vous écoutez CKUT 90.3 FM à Montréal et vous êtes avec Bogad. Yay!
Ay Dios mío, que viva Montreal, la montaña, belleza natural, del oeste hasta el este, para el sur y los barrios del norte.
One Stop Caribbean Cuisine is the place to be. The best tasting food, West Indian food. Check it out, 334 St. Jacques Street, the one and only Chef X, and the best. Everyone calling up his name, talking about him. All type of food ready right there. Fish, vegetables, oxtail, curry goat, jerk chicken. That same tasting Caribbean food in a Montreal. And then me go, when me left Jamaica. Go there right now, the food delicious, delicious. West Indian Caribbean Cuisine. I will be there, check it out, check it out.
¿Qué pasa, gente? Siguen escuchando CKUT 90.3 FM. Mi nombre es Boca Floja de Quilombo Arte.
Es la guaracha de un camacho, de este macho inquisidor, de su gazpacho melancólico. El buen salvaje de la turma, capaz de la suma, comunidad se entreteje y ahora pulula. Aprieta mano que el gusano no bendice.
And we are now tuning into the universe of Latin Music Mondays. Welcome back once again to Pro.